en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
En 1898, Lucien Febvre, de famille universitaire, intègre la rue d'Ulm après des études au lycée Louis-le-Grand à Paris. Il exerce rapidement une critique et une forte influence sur l'histoire en tant que discipline, en collaborant à des revues sous la direction du philosophe Henri Bert, qui cherchait à réaliser une synthèse des sciences historiques dès 1900. Sa soutenance de thèse confirme dès 1911 la naissance d'un grand historien. Plus tard, en 1929, à travers l'aventure des Annales et en particulier avec la revue des Annales d'histoire économique et sociale qu'il fonde avec Marc Bloch, il est à l'origine de la fameuse école historique, l'école des Annales, si féconde, creusée de l'histoire des mentalités. On parlerait peut-être aujourd'hui plus facilement d'histoire des représentations. Lucien Febvre est un monument de l'historiographie française dont la destinée est liée et éclipsée par celle de son ami l'historien Marc Bloch. Son œuvre, son écriture aux envolées lyriques, exhortait à vivre l'histoire. Formule qu'il lance en 1941. Révolutionnaire par son approche méthodologique, en rupture avec les maîtres de l'histoire positiviste et événementielle, à l'opposé d'un théoricien de l'histoire ou d'un érudit dans sa tour d'ivoire, il s'est intéressé à l'histoire qu'il voulait totale mais pas totalisante. Il a mené main combat pour cette histoire à part entière. Son œuvre, protéiforme, mal connue, révèle un esprit libre et actif au service de la communauté des historiens et de la société. Né en 1878 à Nancy, lorrain d'adoption, comtois de cœur et d'origine, strasbourgeois durant l'entre-deux-guerres, parisien à nouveau à partir de sa nomination au Collège de France en 1933, architecte du CNRS, fondateur avec Charles Morazé puis Fernand Braudel de la 6e section de l'École pratique des hautes études qu'il préside de 1948 à 1956, il meurt dans sa propriété du Sujet à Saint-Amour dans le Jura en 1956. Alors c'est le parcours de cet historien, spécialiste de la Franche-Comté comme de l'histoire religieuse de la France du XVIe siècle, loin des honneurs et du pouvoir malgré un cursus honorum des plus classiques, professeur au Collège de France puis membre de l'Institut, que je vous propose de découvrir en compagnie de Brigitte Mazon. En effet, à partir de 1949, Lucien Febvre est élu à l'Académie des sciences morales et politiques au fauteuil numéro 5 de la section Histoire et géographie. Brigitte Mazon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archiviste de l'École pratique des hautes études en sciences sociales, responsable du fonds d'archives Lucien Febvre, et vous avez publié en janvier 2009 Lucien Febvre, Vivre l'histoire dans la collection Bouquins. Il s'agit d'une édition établie par vos soins avec une préface de Bertrand Muller, autre spécialiste de l'histoire de Lucien Febvre. Si Lucien Febvre exhortait ses étudiants à vivre l'histoire, vous nous exhortez à lire Lucien Febvre. C'est le mérite de cette publication qui permet de découvrir les différents laboratoires d'histoire que l'historien mit en place avec les Annales, l'Encyclopédie française et la 6e section de l'EPHE. Vous nous proposez de lire les écrits de Lucien Febvre, chercheur hors normes, chef d'équipe, inventeur d'histoire, pour qui s'investir dans le collectif était naturel et nécessaire en accord avec les choix de sa vie d'homme. Dans le présent ouvrage, le lecteur trouve la préface de Bertrand Muller, un texte de vous, Brigitte Mazon, Lucien Febvre, combat et destin, combat au pluriel, une chronologie de 2 ou 3 pages, l'édition de Combat pour l'histoire de Lucien Febvre. Alors, Combat pour l'histoire, c'est un recueil d'articles qu'il a lui-même établi pour une publication en volume en 1953. Et on trouve aussi, dans ce livre de la collection Bouquins, un deuxième recueil d'articles qui a pour titre Pour une histoire à part entière, cette fois établie définitivement, on va dire, par Fernand Braudel, qui s'explique sur le choix de ce titre et sur ce recueil qui a été préparé cependant par Lucien Febvre. Pourtant, pour vous, Brigitte Mazon, Braudel a mis sa patte dans cette table des matières. Vous nous en direz peut-être plus tout à l'heure. Enfin, le lecteur trouvera également un texte du fils de Lucien Febvre, Henri Febvre, mon père, Lucien Febvre. Et ce n'est pas fini. Les auditeurs connaissent le volume des collections bouquins. Donc, on trouve évidemment des annexes, non pas une, mais des bibliographies, plus une table des auteurs cités par Lucien Febvre. Et puis, l'index établi par Febvre lui-même pour Combat pour l'histoire. Et enfin, un index établi par vos soins, Brigitte Mazon, sur l'édition du texte Pour une histoire à part entière. Brigitte Mazon, comment et pourquoi est née cette publication d'abord? qui était tout un travail d'édition très minutieux, très scientifique, où il s'agit d'être effectivement fidèle aux sources et en même temps d'en extraire ce qu'il y a de plus juste.
Fidèle aux sources et à la méthode éditoriale de Lucien Febvre, qui est extrêmement rigoureuse. Lucien Febvre suivait ses publications jusqu'au bout. Les épreuves conservées dans le fonds d'archives en témoignent. Il avait lui-même établi un début de bibliographie. La bibliographie de l'ensemble des titres de Lucien Febvre est constituée d'une dizaine d'ouvrages seulement, les autres étaient en gestation, et de 2000 titres de compte rendu, d'articles, de notes critiques. Et de ces 2000, avec des longueurs différentes, évidemment, il s'agit quelquefois de courtes notes ou d'articles de plusieurs dizaines de pages. Il s'agit de toute sa production dans les différentes revues depuis 1900, de la revue de synthèse à la revue de métaphysique et de morale, en passant bien évidemment par les annales. Lucien Febvre, au début des années 50, en 1953, commence à rassembler ses articles pour en faire un premier recueil qui lui donnera le nom, le titre « Combat pour l'histoire ». Et une fois qu'il avait rassemblé une cinquantaine d'articles, il en restait encore une bonne centaine qui lui paraissait important de fournir au lecteur. Et il avait prévu un second volume qui aurait rassemblé ses textes de géographie, ses textes d'histoire économique et sociale. Dans Combat pour l'histoire, il a pris ses textes les plus militants, ses manifestes les plus engagés. Il avait rassemblé les textes de géographie. Vous avez dit que Fernand Braudel y a mis sa patte, il y a mis une simple griffe qui a été dans l'organisation des chapitres, puisque si le lecteur se reporte à la table des matières de Combat pour l'histoire, il s'apercevra que c'est une table des matières extrêmement vigoureuse, engagée, qui part d'une profession de foi.
Donc dans Combat pour l'histoire, on a effectivement des titres évocateurs, hein, les uns, les pour et les contre. Ça commence par profession de foi au départ, mais alliance et appui, regard chez le voisin ou frère qui s'ignore, et là il s'agit des historiens de la littérature, des historiens de la philosophie, des historiens de l'art, des historiens des sciences, et puis effectivement, figures et souvenirs, et là, il y a des hommages
à
ceux qui ont compté pour lui et ce qu'il espère.
Extrêmement émouvant. Donc, c'est une tas de matières très pensée, très, très originale, très personnelle, et pour une histoire à part entière, Fernand Braudel a fait comme il pouvait, et il a organisé la suite des textes un petit peu comme un manuel qui suit l'organisation des annales, des chapitres des annales, histoire, économie, société.
Mais livre 1, géographie.
Il suffit de rentrer dans le contenu. On est totalement dans Febvre, même si l'agencement n'est peut-être pas tout à fait, en tout cas les titres de l'agencement ne seraient pas les siens.
Quel était votre objectif à vous ?
Il nous a semblé avec l'éditeur Guy Stavridès, qui a été celui qui s'est rendu chez Henri Febvre, qui vit toujours au domicile de son père. Guy Stavridès voulait republier du Lucien Febvre et à l'heure actuelle, il y aurait bien évidemment un certain nombre d'inédits qui sont ses cours et puis tous ses textes, ses introductions, ses préfaces pour le XVIe siècle, mais ce serait un très gros travail d'édition. Et Combat pour l'histoire était épuisé chez Armand Collin et pour une histoire à part entière aussi aux éditions de l'École des hautes études. Donc il semblait opportun de redonner au public ces textes qui sont au nombre de 126 articles, notes, compte rendu, dont là, ils sont apparemment hétéroclite lorsqu'on passe d'époques et de sujets extrêmement différents. Mais l'unité, c'est l'esprit de Lucien Febvre, c'est son écriture qui est sur ces 1000 pages. Je dois dire qu'il n'y en a pas une qui m'ait déçue, tellement on est porté par son style, sa vigueur, son tempérament et sa combativité.
Quelle est la singularité alors de ces textes selon vous ?
Elle est dans la manière dont Lucien Febvre d'abord refuse un esprit de système, refuse une doctrine. Son écriture est extrêmement stimulante pour l'esprit. À chaque chapitre, on apprend non seulement beaucoup, parce que c'est un formidable érudit, c'est un esprit encyclopédique, mais on est stimulé, Lucien Febvre, et de ces auteurs qui vous donnent l'impression d'être intelligent et qui vous amènent à lui. Il n'est jamais abscon, il n'est jamais confus, il est d'une précision extrême.
Alors,
il
et est on très sent critique. Beaucoup qu'il s'adresse au lecteur.
Ah, il s'adresse au lecteur, il stimule, il exhorte à penser. Et c'est là sa plus grande force, et puis il est d'une vigueur constante, étonnante.
Vous qui êtes archiviste, du fond, justement, Lucien Febvre, dans les documents auxquels vous avez accès et même dans ces pages, quels sont les documents qui vous ont le plus touché ?
Alors, Lucien Febvre, il touche beaucoup parce que Lucien Febvre est un homme d'une grande capacité émotionnelle. Il ne s'épanche pas dans le sens où il ne parle pas de lui. Et on a peu accès à son intimité.
Il dit souvent nous, même quand...
Il dit souvent nous, mais il est d'une formidable générosité, il a un cœur immense, il a l'air dur apparemment, il a l'air dur parce qu'il est exigeant, mais quand il aime très fort et il le dit. Et il n'a pas peur de ses sentiments. Donc tout ça, dans ses archives, on le voit dans sa correspondance, dans les brouillons de ses lettres, puisque par définition, dans un fonds d'archives, nous avons les lettres reçues.
Alors présentez-nous le fonds Lucien Febvre.
Alors ce fonds Lucien Febvre, c'est un fonds magnifique. C'est un fonds magnifique parce que c'est un tout organique. D'ailleurs, cette notion d'organique, elle est très présente chez Lucien Febvre, parce qu'il parle de la vie, et la vie est quelque chose d'organique, avec ses parties qui s'intègrent dans le tout. Et là, on peut remonter aussi à Michelet. Donc elle est un tout organique. Puisque Lucien Febvre, sans être un conservateur maniaque, puisqu'il jetait certainement des choses à ses yeux totalement insignifiantes et probablement insignifiantes, il savait toujours aller à l'essentiel, et même avec ses papiers. Donc on a dans ce fonds d'archives, remarquablement classé par lui dans les détails, certes pas dans un agencement définitif, puisque tous ses papiers se retrouvaient en bas de ses placards, de sa bibliothèque, mais remarquablement classé parce qu'il intitule ses dossiers. Il classe sa correspondance par ordre alphabétique ou thématique selon les besoins. Et on va très facilement à ses données bibliographiques, à ses données biographiques. On parlera tout à l'heure peut-être de la Grande Guerre, puisque là, c'est une partie du fond qui est extrêmement importante. Et puis, tous ces dossiers de travail magnifiquement classés, qu'il a alimenté les dossiers de la Franche-Comté, par exemple, qu'il a alimenté...
Toute sa vie.
Toute sa vie. Au soir de sa mort, il était encore en train de faire des fiches sur la Franche-Comté, puisqu'il avait dans l'esprit de publier une histoire de l'Est, une histoire de la Franche-Comté, et surtout le XVIe siècle. Les fichiers sont
immenses. Ça représente combien de
le volume, de volume. Dans les archives, on parle en mètres linéaires. Oui. Entre ce qui a été donné déjà par le fils de Lucien Febvre, Henri Febvre, aux Archives nationales, et les Archives nationales m'en ont confié le classement, il y a une douzaine de mètres linéaires, et il reste chez Henri Febvre, à rue du Val-de-Grâce, une bonne dizaine de mètre linéaire, il a conservé les manuscrits, ce qu'il espère voir publier, de la correspondance et des choses qui lui tiennent à cœur, dont les archives de la guerre. Et puis, il y a un fonds de photographies. Il a fait conserver les photos. Je ne sais pas s'il était derrière l'objectif lui-même, mais en tout cas, les photos avaient de l'importance pour lui. Et puis surtout, il dessinait. Alors, chez Henri Febvre, on n'a pas tous les dessins, mais peut-être c'est une de ses filles.
Grâce à vous,
il dessinait et il croquait. On y reviendra tout à l'heure, des dessins de champs de bataille qui sont très impressionnants. Il faisait des cartes, il avait une représentation en diagramme, en arbre généalogique. Je vous ai montré tout à l'heure son...
Oui, en préparant l'émission, un arbre généalogique de ses affinités intellectuelles. De ses
affinités. Il avait une représentation organisée et visuelle. Il y a des histogrammes magnifiques où il représente tout le XVIe siècle avec ses différentes entrées. Il aurait voulu faire de l'histoire de l'art. D'abord parce qu'il était aussi fortement déçu de l'enseignement de l'histoire quand il est arrivé au lycée Louis le Grand, à l'histoire diplomatique, l'histoire événementielle. Il aurait voulu s'orienter vers l'histoire de l'art. Et puis, il s'est arrêté dans son élan puisqu'il s'est rendu compte qu'il était daltonien, qu'il voyait mal les couleurs. Alors, on ne s'en rend pas compte au niveau de ses dessins, qui sont très beaux, mais lui a renoncé à cette vocation d'historien de l'art pour devenir historien généraliste, dit-on.
Et dessiner même des arbres, vous m'avez raconté.
Dessiner des arbres magnifiques, son cèdre.
Le cèdre de sa propriété.
De Saint-Amour, de sa propriété Saint-Amour. Il a dessiné ce cèdre qui a aussi une histoire.
Pas seulement des histogrammes.
Non, pas seulement ses arbres. Il taillait ses arbres. C'était un homme de la terre.
Alors, c'était aussi, donc, on va revenir à son travail d'historien et à son souci scientifique d'indexation. Parce que, justement, dans ce volume, on voit tout ce travail. Qu'est-ce que vous pourriez nous préciser, nous présenter? Oui. Parce que vous avez souhaité, dans l'édition présentée, justement faire figurer à la fois l'index qu'il a réalisé. Et vous-même, vous avez dû en réaliser un pour une histoire à part entière. Alors.
Ça a été la quadrature du cercle. Il a fallu toute la patience de l'éditeur pour faire et défaire et remettre l'ouvrage sur le métier, puisque normalement, on a un seul index à la fin d'un volume. Lucien Febvre avait indexé lui-même Combat pour l'histoire d'une manière totalement personnelle, et ça faisait partie de l'œuvre. On ne pouvait pas sacrifier la manière dont Lucien Febvre s'était indexé lui-même. Et d'ailleurs, on a remis un fac-similé pour bien prouver que c'était bien lui. Donc, il fallait respecter ça, mais on avait à ce moment-là 500 pages non indexées qui qui sont le volume posthume de Pour une histoire à part entière. Donc, dans un premier temps, j'ai intégré mes entrées d'indexation dans celui de Lucien Febvre. C'était catastrophique. Donc, il a fallu respecter celui de Lucien Febvre et revoir simplement la pagination et faire un autre index pour la seconde partie du volume. Et dans ce second index, j'ai adopté le vocabulaire de l'époque, celui de Lucien Febvre. Je n'ai pas modernisé les entrées de l'index. Mais pour Lucien Febvre, par exemple, c'est un index commenté pour Michelet, par exemple. Michelet, définition des comptoirs, préceptes et méthodes et notes de cours sur le romantisme, et puis compris par Houpnel, mais non par les incultes. Tenait à enseigner la philosophie. Donc son index, c'est un index commenté.
C'est des notes.
Ou alors, à un moment, on a une entrée d'index sur Dieu. Alors, je me suis demandé, Dieu seul, hein, on a simplement Dieu seul. Et si on se reporte à la page Dieu seul, on s'aperçoit qu'il propose de mettre une autre pancarte dans l'alcôve des anciens en Franche-Comté et de mettre l'homme seul, puisque pour Lucien Febvre, l'histoire, c'est l'histoire de l'homme. Et son seul Dieu, ce serait l'homme, en quelque sorte.
Alors, on voit que, effectivement, ce travail scientifique, et puis parce que dans la méthodologie aussi qu'il a initié, ce travail d'index est primordial. Donc là, remercie les éditions Robert Laffont d'avoir publié l'ensemble, c'est-à-dire les textes et ce gros travail d'indexation.
Et d'avoir accepté.
Parce qu'on voit l'historien à l'œuvre, grâce aussi à ça. Grâce à cette.
C'est
plus que du complément. Marquons une courte pause et retrouvons Brigitte Mazon qui est venue nous parler du livre Lucien Febvre, Vivre l'Histoire, publié dans la collection Bouquins en janvier 2009. Brigitte Mazon, pourquoi ce titre Vivre l'Histoire ? Formule de Lucien Febvre en 1941. Est-ce que vous pouvez nous présenter ou nous contextualiser un petit peu et nous expliquer Vivre l'Histoire ?
Puisque vous ne pouvez pas prendre l'un ou l'autre des titres, il fallait en prendre un troisième. Et parce que Vivre l'Histoire, c'est en filigrane dans toutes les pages. Lucien Febvre est tellement investi dans l'histoire, dans cette carrière, dans cette mission. Et c'est une conférence qu'il prononce en 1941 à l'école normale devant de jeunes normaliens, ceux qui étaient restés à Paris, trop jeunes pour être au front.
Alors, votre position justement au cœur des archives nous permet de faire une belle émission, un peu différente par rapport à d'habitude. Vous avez préparé une sélection de textes, justement, des textes de Lucien Febvre pour cette émission qui vont nous permettre de tracer un portrait en faisant parler Febvre lui-même. J'invite donc les internautes à un parcours tout en lecture. Là, ça va être des extraits pour découvrir ou redécouvrir la pensée de Lucien Febvre et la pensée de cet historien, mais dans laquelle j'espère qu'on verra justement l'homme, sa droiture, sa justesse, son esprit et un petit peu de l'esprit des annales. Donc, c'est là notre objectif. Grâce à cette sélection, on pourra peut-être comprendre ce qui a fait rayonner la France sur le plan intellectuel au niveau international pendant très longtemps et qui a été si fécond. Alors peut-être pour revenir au titre, mais aussi à ce qui fait l'essentiel, on va peut-être présenter le premier texte, Vivre l'histoire, d'où ça vient ? Où est-ce qu'il l'a dit ? Où est-ce qu'il a prononcé cette formule ? Pour faire de l'histoire, tournez le dos résolument au passé et vivez d'abord. Mêlez-vous à la vie intellectuelle sans doute, dans toute sa variété. Historien, soyez géographe, soyez juriste aussi et sociologue et psychologue. Ne fermez pas les yeux aux grands mouvements qui, devant vous, transforment à une allure vertigineuse les sciences de l'univers physique, mais vivez aussi d'une vie pratique. Ne vous contentez pas de regarder du rivage paresseusement ce qui se passe sur la mer en furie. Dans le bateau menacé, ne soyez point Panurge qui se salit de mâle peur, ni même le bon Pantagruel qui se contente, tenant le grand mât embrassé, de lever les yeux au ciel et d'implorer. Retroussez vos manches, comme frère Jean, et aidez les matelots à la manœuvre. Est-ce tout ? Non, ce n'est même rien. Si vous devez continuer à séparer votre action de votre pensée, votre vie d'historien, de votre vie d'homme, entre l'action et la pensée, il n'est pas de cloison, il n'est pas de barrière, Il faut que l'histoire cesse de vous apparaître comme une nécropole endormie où passent seules des ombres dépouillées de substances. Ah, évidemment, vous nous avez fait un beau choix. Comment s'est traduit pour Lucien Febvre, justement, cette formule qu'il a fait sienne et qu'il présentait à ses Normaliens en pleine guerre en 1941? Comment ça s'est traduit dans son œuvre et dans
sa vie? Alors, nécessairement, quand on entend un texte comme ça, on se pose la question, comment vivait-il? On n'imagine évidemment pas l'historien, le savant, dans ses fichiers et dans son fauteuil. Et on se pose la question de sa jeunesse. Il s'adresse à des jeunes. Donc, que faisait-il lui-même à 20 ans? Comment vivait-il à 20 ans? Et à 20 ans, il était engagé. Il était au sortir de ses classes préparatoires à l'école normale supérieure. Il était très engagé.
Alors justement, c'est un normalien, on l'a dit dans l'introduction, qui enseigne très rapidement à Besançon. Et il publiera sa thèse en 1911. Mais justement, au moment où il finit un petit peu, on va dire, pendant ses années de doctorat, quels étaient ses engagements politiques de jeunesse?
Alors tout d'abord, il a tissé un réseau d'amitié très très fort, très solide, qu'il a gardé ses amis toute sa vie au sein du lycée de Normale Sup et avant au lycée Louis le Grand. Son grand ami Henri Vallon va partager avec lui ses engagements et ses premiers engagements d'une sensibilité politique proche du syndicalisme d'action directe, une forme d'anarcho-syndicaliste. C'est un syndicaliste, mais il est révolté contre la politique répressive de Clémenceau. Clémenceau, il le voue aux Gémonies, et Clémenceau à l'égard des mouvements sociaux. Et il adhère en 1905 au Parti Socialiste Unifié. Il prône même la radicalisation politique, l'action directe, le refus de la discipline républicaine et même l'antiparlementarisme. Et c'est l'époque où il écrit une série d'articles dans l'organe du Parti Socialiste du Doubs, le Socialiste Comtois.
Et alors, vous nous avez préparé justement un extrait, un texte tiré de ce périodique, je ne sais pas comment l'appeler, les Socialistes Comtois.
C'est l'organe hebdomadaire.
Voilà, un hebdomadaire.
Ça, il faut que je vous dise tout de suite que ce n'est pas moi qui l'ai trouvé. Il y a un historien espagnol qui s'appelle Ereno Altuna, qui a fait une superbe thèse sur le jeune Febvre et ses engagements. Et Jean Lecuir, un historien, a retravaillé ses textes, les a traduits. Donc, il travaille sur le jeune Febvre. Donc, les choses sont. La connaissance du jeune Febvre est en train de s'élaborer à travers ses historiens.
Alors, je vais lire cet extrait. Nous nous sommes souvent heurtés à ce préjugé que la révolution serait faite, qu'elle se ferait automatiquement le jour où les socialistes seraient au Parlement la moitié plus un. Faut-il donc nous heurter à ce second préjugé, que la révolution serait faite, qu'elle serait faite automatiquement le jour où la presque totalité des travailleurs serait englobée dans des syndicats riches? Mais regardez donc l'Allemagne, ses millions de socialistes, ses millions de syndiqués. L'organisation par elle-même a-t-elle en rien atteint diminuer la force de l'État, la puissance capitaliste et militariste de l'État, soutenant et ayant de toute son énergie la puissance financière du patronat? L'organisation est une chose excellente, s'entend, mais la révolution en est une autre. Alors un petit peu plus loin, dans le même texte, ce ne sont pas les doctrines pures, ce ne sont pas les institutions, ce sont les faits qui créent l'avenir. La vie, a dit Michelet, assure elle-même une perpétuelle puissance d'enfantement. Homme de peu de foi, il n'y a pas dit républicain en 1789, il y a aujourd'hui en 1909, plus de 10 socialistes au sens large du mot. Brigitte Masson, quand on lit ce texte, on est quand même impressionné de son militantisme, de son engagement très vindicatif.
Alors, on reconnaît déjà son style, c'est du Lucien Febvre. Et il faut dire que son militantisme politique radical, aussi radical, s'arrêtera vers 1910. D'abord, il se remet à la fin de la rédaction de sa thèse.
Parce que là, il est en thèse.
Voilà. Et puis, mais on constate dans ses écrits ultérieurs quand même des résurgences, des persistances de ses engagements de jeunesse.
Déjà Michelet.
Voilà. Et en particulier dans son attachement à la figure de Proudhon. Sans parler de son admiration continue pour Jaurès. Et il pense alors, en 1909, que la révolution se fera de manière progressive, qu'elle sera le fruit de l'organisation du travail et du remplacement de la propriété individuelle par la collectivité de façon légale. Ce qui frappe aussi, c'est sa référence à Michelet. Il le cite ici de mémoire, il déforme un petit peu, mais vous voyez, il y va aussi pour Michelet de la vie qui assure elle-même une action de perpétuel enfantement.
Alors, quel était son sujet de thèse? Parce que ça, pendant ces années-là, il est en pleine rédaction. À l'époque, on faisait une grande thèse, on en faisait plusieurs.
Alors, il avait surpris ses maîtres, dit-il lui-même. Il les a surpris en choisissant un sujet d'histoire locale, d'histoire provinciale. Et bien
c'était
évidemment,
tout à fait novateur.
C'était novateur à l'époque. Il a choisi la Franche-Comté. Et il produit une thèse monumentale, comme c'était aussi la règle du genre, de 800 pages. Et c'est un chef-d'œuvre consacré à une personnalité historique collective, la Comté du XVIe siècle, qu'il décrit en géographe et en historien d'histoire politique, religieuse, économique et sociale. Il s'agit non pas d'un Philippe II, le titre c'est « Philippe II et la Franche-Comté, études d'histoire politique, religieuse et sociale ». Mais il ne s'agit pas de Philippe II, mais d'une région. La Franche-Comté, un quasi-État. Et cette thèse d'histoire régionale est ancrée dans la géographie de Vidal de la Bâche, un de ses, maîtres. Et c'est la première thèse de cette envergure qui a ouvert la voie, on le saura plus tard, aux travaux des Goubert, des Leroy Ladurie. Et puis, surtout, c'est la matrice de la thèse de Fernand Braudel, qui, lui, dans son titre, a inversé l'ordre des personnages historiques, Philippe devenant après l'objet historique de la Méditerranée, comme c'était finalement le cas pour le Philippe II de Lucien Febvre. Et il n'avait pas encore songé à aller jusque-là.
Alors, vous avez choisi un extrait de sa grande thèse, qui est en fait la conclusion de l'avant-propos, que je vais lire, où on voit effectivement, là aussi, déjà, et un grand historien. On y voit sa vision de l'histoire. On néglige trop en vérité, on connaît trop imparfaitement encore l'histoire intérieure de ces provinces, Dauphiné, Savoie, Bresse, Franche-Comté, de ces membres épars des vieilles dominations, des royaumes éphémères d'Arles et de Bourgogne qui, sur les frontières, furent lentes à se rallier à l'unité française. Pays rude dont on sait le rôle protecteur, on en signale avec Michelet le vigoureux génie de résistance et d'opposition. On leur sait gré d'avoir abrité de leur corps, préservé des coups les plus rudes, les terres fécondes des fruits de la pensée, auxquelles leur existence souffrante et tourmentée permit de cultiver, dans une paix relative, la fleur délicate de la civilisation. Mais leur passé encore a un autre intérêt. Ces terres françaises subissent, au cours de leur histoire indépendante, des influences extérieures très diverses. Ainsi, proches à la fois et différentes des provinces plutôt ralliées ou pas au royaume, elles peuvent fournir souvent aux historiens de la France des témoignages utiles, des rapprochements féconds. Elles sont dans une certaine mesure comme autant de champs d'expérience et de comparaisons installés, maintenus aux frontières par la vie et par les siècles mêmes. Donc là, on voit bien que d'abord, il y a déjà cette notion de civilisation et puis que c'est un homme de la frontière.
Juste une information, cette thèse va être rééditée dans les prochains mois aux éditions Perrin. Oui, c'est un homme de la frontière, c'est un homme de l'Est. Et bien, il sera mobilisé quelques années plus tard.
Effectivement, il est envoyé au front, il est mobilisé pendant toute la durée de la guerre. Brigitte Mazon, justement, qu'est-ce que disent les archives du Fonds Lucien Febvre sur cette période douloureuse?
Alors, les archives disent beaucoup plus qu'il n'en dit lui-même.
Parce qu'il n'a pas laissé de journal, il n'a pas laissé de témoignage là-dessus.
Il en a même, semble-t-il, relativement peu parlé. Mais les archives sont formidablement riches, puisqu'il a, là, il a tout conservé. Il a conservé ses dossiers de commandant d'une compagnie de mitrailleurs. Il a ses carnets de route.
Vous avez parlé de dessins tout à
l'heure. Ses dessins, parce que dans les tranchées, quand il pouvait monter en surface et dessiner les prés, il y a un dessin superbe où on voit comme un sillon la trace de la tranchée et il surplombe et il y a les arbres. Il y a des dessins superbes. Il fait des croquis du champ de bataille, du tir des mitrailleuses. Et puis, quand il perd des hommes, d'ailleurs, on a toujours tout son bataillon précis. Et puis, il y a ses schémas des positions et le nom des hommes qui meurent au combat. le nombre d'enfants, d'orphelins laissés derrière eux. On a l'épitaphe des tombes, les lettres des veuves. C'est des dossiers extrêmement troublants et des photos, beaucoup de photos.
Alors pour lui, ça a été une expérience marquante. Et sur son œuvre, comment ça se traduit? Vous avez sélectionné justement un extrait de l'histoire dans le monde en ruine en 1920. Ça date de 1920,
oui,
évidemment, il sort de la guerre. Et
oui,
il est nommé professeur à Strasbourg, là, cette fois. Et il fait cette conférence qui s'appelle « L'histoire dans le monde en ruine ». Je vais peut-être en lire tout de suite un extrait.
Oui, parce qu'il sort de ces forêts de cauchemars. Et vous me demandiez ce que ça avait révélé. En tout cas, une chose qui a été révélée, mais qu'on voyait déjà avant, que c'est un meneur, c'est un leader. Il a un tempérament de chef et d'organisateur. Ça, on le voit. Et l'ardeur patriotique des gens de l'Est.
Voilà.
Il n'y a pas un instant.
Et puis là, il est à Strasbourg. On va justement lire le texte. À l'heure où pour la première fois je prends la parole en public dans l'université française de l'Alsace française, à l'heure où, plus fortement que jamais, je sens ce que pèse l'honneur de donner ici l'un des enseignements capitaux de cette université, celui de l'histoire moderne, quel que soit mon désir d'éviter ce qui ressemble à un vain apparat, je ne puis m'empêcher de rechercher avec vous, brièvement mais en toute conscience, les raisons d'être profondes, les conditions nécessaires, les principes de cet enseignement tel que je le comprends, tel que nous le comprenons. Ai-je droit, historien que j'étais, de reprendre aujourd'hui ma besogne d'historien ? Faire de l'histoire, enseigner de l'histoire, remuer des cendres les unes toutes froides déjà, les autres encore tièdes, les plus récentes presque chaudes, mes cendres toutes, résidus inertes d'existence consumée. Et quelle tâche plus belle, à la fois et plus aisée au lendemain de la victoire, alors que le prestige du triomphe porte tout naturellement la France sur le devant de la scène, quelle tâche plus belle et plus pressante ici, surtout dans cette Alsace sevrée pendant presque un demi-siècle de paroles et de pensées françaises, assiégée par les mille mensonges et les mille astuces d'un vainqueur sans scrupules, d'autant plus avide d'entendre enfin la vérité française. Que l'histoire serve. Nul ne s'avisera de la trouver inutile. Eh bien non, s'il fallait acheter à ce prix le droit moral de faire de l'histoire, je le dis bien haut, j'y renoncerai. Et le nom que je viens de prononcer, je veux le prononcer d'autant plus fort, je veux le répéter d'autant plus haut que je parle ici, précisément dans cette salle, dans ce bâtiment élevé, pour la justification d'une politique, pour la glorification d'une dynastie et d'un État. L'histoire qui sert, c'est une histoire serve. Professeur de l'Université française de Strasbourg, nous ne sommes point les missionnaires des beautés d'un évangile national officiel, si beau, si grand, si bien intentionné qu'il puisse paraître. Brigitte Mazon, on voit que Lucien Febvre, effectivement, est un meneur d'hommes. On sent tout son patriotisme. Quel fut le rôle de Lucien Febvre à l'université de Strasbourg? C'est une période un petit peu particulière où il y a vraiment des rénovateurs qui arrivent là à Strasbourg sur le plan universitaire. Quel fut son rôle?
C'est le grand renouveau de l'université dans l'Alsace libérée. Et ses collègues principaux, citons Étienne Gilson, Gustave Cohen, Charles Blondel, Gabriel Lebras, André Pigagnol, Georges Lefebvre et... À Strasbourg, et puis le jeune Marc Bloch, enfin je dis jeune, il avait 8 ans de moins que Lucien Febvre. À Strasbourg, donc, Lucien Febvre laisse ses marques d'organisateur par la création d'un institut d'histoire moderne et l'organisation même des enseignements. Il propose la coordination des études, l'ordre des disciplines et des cours. Il préconise des ponts, des voies de passage entre les différents centres et exige que tout cela soit rendu visible et tangible par une affiche, ce qui était novateur. Et ce qui révèle une fois de plus son tempérament classé, ordonné, organisé, affiché. Et c'est ainsi qu'il agit toujours en entrepreneur.
Quel est à ses yeux l'ouvrage qui comptait le plus? C'est-à-dire parmi ses publications durant cette période strasbourgeoise, quel fut à ses yeux l'ouvrage qu'il a écrit?
Alors,
qui
tout d'abord, il doit achever ce qui était un petit peu devenu un pinsom. Il s'était engagé auprès d'Henri Baire pour la collection L'évolution de l'humanité, un volume sur la Terre. Il doit l'achever, il l'achève en 22, avec l'aide d'ailleurs un petit peu, semble-t-il, de son épouse Suzanne, qu'il a épousée en 1921 et qui était normalienne, agrégée d'histoire. Donc, il termine ce travail avec l'aide d'un jeune de bataillon. Et dans la Terre, il qu'il a largement modifié après-guerre, c'était presque fini avant-guerre. Et son propos, c'est d'écarter le déterminisme morphologique pour développer le possibilisme. Mais on ne va pas rentrer là. L'ouvrage le plus important, c'est son Luther. Un destin, Martin Luther.
Et un ouvrage de 1928.
Oui. En 1928.
C'est lui qui s'exprime, hein, donc c'est toujours Lucien Febvre, avant-propos à la première édition. Une biographie de Luther ? Non. Un jugement sur Luther ? Pas davantage. Dessiner la courbe d'une destinée qui fut simple mais tragique, repérer avec précision les quelques points vraiment importants par lesquels elle passa, montrer comment, sous la pression, de quelles circonstances son élan premier dut s'amortir et infléchir son tracé primitif. Poser ainsi, à propos d'un homme d'une singulière vitalité, ce problème des rapports de l'individu et de la collectivité, de l'initiative personnelle et de la nécessité sociale qui est peut-être le problème capital de l'histoire, tel a été notre dessein. Alors là, on a tout sur l'histoire-problème.
Oui, l'histoire-problème et l'histoire et ses portraits d'âme. Lucien Febvre brosse de magnifiques portraits d'âme. Il y a celui de Luther, il y a celui de Rabelais, il y a celui de Marguerite de Navarre plus tard. Et il dit aussi, dans la page 869 de Vivre l'histoire, il reprend la manière dont il a voulu brosser le portrait de Luther. Et il dit, je complète un petit peu cette citation... Ressusciter Luther, ce n'est pas inventer d'abord une définition de la réforme, cet être mythique, pour confronter ensuite, avec cette abstraction sans vie, l'un des hommes les plus éclatants de vie qui ait jamais figuré dans le panthéon des grands prophètes. Ressusciter Luther, c'est, dans le paysage de son temps, dans le climat et l'atmosphère de son époque, se mettre directement en face de cet homme, sans masque, ni armure, ni carapace, et l'étreindre fraternellement.
C'est vraiment une histoire qui se veut
au plus proche de l'homme,
très humaniste. Lucien Febvre est évidemment connu comme fondateur de la fameuse école des Annales et de la fameuse revue en 1929 avec Marc Bloch. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la naissance des Annales dans les archives que vous connaissez, Brigitte Mazan ? Est-ce que ça apparaît ?
Dans les archives, peu de choses, sauf, évidemment, l'essentiel, mais c'est la correspondance. Les archives des Annales, c'est la correspondance de Lucien Febvre et de Marc Bloch. Correspondance magnifiquement établie.
Quand est-ce qu'il le rencontre ?
Alors, il rencontre Marc Bloch en 1920 à Strasbourg. Marc Bloch a 32 ans, il en a 40, je crois, si je me trompe. Donc à votre question que vous posiez, Lucien Febvre répond. Précisément, en 1928, Marc Bloch s'était ouvert à moi d'un projet. Au lendemain de la guerre, à peine démobilisé, j'avais conçu l'idée d'une grande revue d'histoire économique internationale. Je la voyais, cette revue, dirigée par Pirenne, dont l'autorité s'affirmait incomparable. J'étais tout prêt à en assurer à ses côtés le secrétariat général. J'avais poussé mes projets très loin, et Pirenne s'y était vivement intéressée. Pirenne avait cru bien faire d'intéresser les organismes genevois à l'affaire, en conséquence de quoi la revue projetée s'était enlisée dans les terrains mouvants des bords du Léman. Un peu découragé, j'avais laissé là mes plans et mes rêves. Bloch, un beau matin, me proposa de les reprendre avec moi, mais cette fois, instruit par l'expérience, sous la forme d'une revue nationale à collaboration largement internationale. Je l'encourageai à poursuivre son idée en l'assurant que, la revue une fois sur pied, je l'aiderais à la faire vivre, mais dans la coulisse, comme simple collaborateur. Le destin voulut autre chose. Bloch, s'achoppant à des difficultés d'éditeur, me demanda de l'aider de prendre les choses en main directement. Ainsi réussîmes-nous à mettre sur pied, en joignant nos efforts, les Annales d'histoire économique et sociale, grâce à la largeur de vue d'un éditeur. Je fus, avec Marc Bloch, passionnément dès lors, le serviteur et le pourvoyeur des Annales.
Alors, quels étaient leurs rapports ? Des rapports fraternels ?
De collaboration, pas de grande intimité. Cette distance de l'aîné au cadet, ils se sont vouvoyés toute leur vie, alors qu'ils tutoyaient bien évidemment des amis des bancs de l'école normale. C'est une relation de confiance immense, peut-être un peu moins chaleureuse que celle que Lucien Febvre avait
avec Henri Vallon.
Alors, Henri Vallon, bien évidemment, c'est son ami de cœur. Albert aussi. Mais si on compare la correspondance Bloch-Febvre à celle de Febvre-Henri Behr, le ton est différent, mais les relations sont différentes. Ils ont des relations de travail. Ils produisent ensemble une revue et c'est un travail gigantesque. Donc, et puis quand Lucien Febvre se consacrera un peu plus, quand il sera au Collège de France, je brûle les étapes, mais il va y avoir un moment où il laissera le fardeau un peu plus lourd sur les épaules de Marc Bloch, puisqu'il sera pris par d'autres tâches. Les relations sont quelquefois un peu tendues, comme toute relation d'un travail aussi intense.
Parce qu'ils sont liés dans cet acte fondateur, dans cette revue. Revue qui va devenir en 1946 la revue des Annales, Économie, Société et Civilisation. Les termes vont changer parce que tout ça va évoluer.
Parce que Febvre accepte le changement.
Et voilà. Mais comme vous le disiez, en 1933, donc, il quitte Strasbourg pour occuper la chaire du Collège de France. Il a 55 ans et il va occuper la chaire d'histoire de la civilisation moderne au Collège de France. En même temps, déjà à ce moment-là, il veut diriger et il lance son encyclopédie française, qui va être interrompu pendant la guerre, mais oui, alors, déjà il lance ce grand projet.
C'est pas lui qui lance le projet, c'est Anatole de Monzy,
oui,
qui fait appel à Lucien Febvre, oui, pour la direction scientifique de cette entreprise.
D'accord.
Magnifique.
C'est là, il y a tout ce côté encyclopédique.
Oui, et Febvre va diriger 11 volumes, pas moins, publier dans cette encyclopédie française une trentaine de préfaces, de conclusions, d'articles, et rassembler tout ce qu'il y avait de plus avancé dans les sciences, dans toutes les sciences, dans toutes les disciplines de ce temps.
Entre les sujets qu'il choisit et ses projets éditoriaux quand même assez encyclopédiques, puis cette façon d'être au cœur des disciplines, en même temps de les croiser, d'être toujours dans le décloisonnement, est-ce que le modèle de la Renaissance, de l'humaniste, de l'homme de la Renaissance a compté pour lui ?
Certainement. Lucien Febvre est un homme de la Renaissance aussi. Et c'est un homme d'ouverture. Il abat les frontières, il abat les cloisons et il fait travailler ensemble. Donc il lance aussi à ce moment-là des enquêtes. En dehors d'encyclopédie, des enquêtes dans le cadre du Centre de documentation sociale de Célestin Bouglé. Ça fait aussi partie des activités qu'il a dans l'entre-deux-guerres.
Et puis pendant la guerre, on est obligé d'aller un peu vite. Il publie « Le problème de l'incroyance au XVIe siècle, la religion de Rabelais ». Qui est quand même un texte majeur. Et puis, il écrit juste aussi en 1946 son Michelet. Alors, juste une question. Comment vivait un professeur du Collège de France, comme ça, à Paris ? Comment faisait-il pour assurer pendant la Deuxième Guerre mondiale ses cours ? Où est-ce qu'il vivait ? Comment ça se passait ?
Donc, au moment de la déclaration de guerre, il...
Où est-ce qu'il est ?
Il est au sujet, il est dans le Jura. Il a ses charges d'enseignement au Collège de France,
oui,
quand même. Lui, il peut continuer à enseigner, contrairement
à Marc Bloch,
qui part à Clermont-Ferrand, à Montpellier, enfin à Lyon d'abord. Donc, il y a l'exode. Lucien Febvre part à Lyon. En juillet 40, il est à Lyon. Et puis, il peut revenir dans le Jura. Donc, toute la guerre, ça aurait été, il aurait alterné dans l'angoisse, en travaillant beaucoup comme antidote à ses angoisses, le dit-il très clairement. Il est l'été dans le Jura, à Saint-Amour, et l'hiver à Paris. Il continue à voir Marc Bloch autant que faire se pouvait. Il y a eu un moment de crise très dur, au moment où Marc Bloch ne peut plus figurer comme co-directeur des Annales. Il y a une discussion très douloureuse. Lucien Febvre pense qu'il faut durer, il faut continuer à publier la revue. Et finalement, Marc Bloch accepte ce compromis. Et la revue s'appellera, à ce moment-là, doit changer de nom, puisque les deux noms ne peuvent plus figurer sur la couverture. Et la revue s'appellera « Mélange d'histoire sociale ». Il est évidemment très allégé, mais Marc Bloch apporte des contributions à la revue sous le pseudonyme de Fougère, qui était le nom de sa propriété dans la Creuse, et Lucien Febvre autant qu'il le pouvait.
Oui, peut-être faut-il rappeler que Marc Bloch a été fusillé par les Allemands, qu'il a été exclu de la fonction publique en octobre 40 par le gouvernement de Vichy, qu'il était entré dans la clandestinité dès 1942 et qu'il a été arrêté par la Gestapo, torturé, fusillé en 1944. Ils ont choisi des engagements différents dans durant cette période.
Par la force des choses, par la différence d'âge, évidemment. Marc Bloch était juif et Lucien Febvre ne l'était pas. Marc Bloch s'engage dans la résistance. Il aurait pu partir aux États-Unis. La Fondation Rockefeller a proposé de l'accueillir. Il a refusé, puisqu'il fallait refuser. Il est resté en France, sa vieille mère était là, il ne pouvait pas partir avec elle. Et il s'est engagé dans la résistance. Lucien Febvre, lui, a eu une autre forme de résistance incomparable, bien évidemment. Ne nous trompons pas d'évaluation, quoique ce ne soit pas à nous de juger. Mais Lucien Febvre donc, est resté en France et contrairement à une très mauvaise campagne qui a eu lieu dans les années 90 où on l'a accusé sans aucune preuve et sans aucune documentation de s'être accommodé du régime de Vichy. Or, tout dans les textes de Lucien Febvre, dans ses engagements à l'écrit et puis dans sa fréquentation de ses amis juifs pendant la guerre, nous prouve que toute forme de collaboration était,
lui était insupportable.
Totalement insupportable et à milieu de son esprit.
Alors d'ailleurs, justement, au lendemain de la guerre, il va s'engager dans l'action collective, il va se mettre au service d'un tas d'organismes, il va se donner à part entière, d'abord comme président justement du comité de la Seconde Guerre mondiale, il va tout faire pour qu'on parle de Marc Bloch, qui a été fusillé pendant la guerre, justement, qu'il a perdu. Et il n'y a pas un jour, dit-il, je ne sais plus où, dans quel document, il n'y a pas un jour où il ne pense à lui.
Oh oui, tout à fait. Il le dit, Marc Bloch est fusillé à Lyon par la Gestapo le 16 juin 1944. Et Lucien Febvre lui consacra des pages très fortes d'admiration et d'émotion. Et effectivement, quelques mois encore avant sa mort, il écrit « Chaque jour, je ressens l'amertume de notre séparation, la douleur d'une plaie qui, pour moi, ne cicatrisera jamais. »
C'est probablement la fin tragique de Bloch qui a éclipsé un petit peu la postérité du nom de Lucien Febvre.
Oh,
dans l'historiographie,
non ? Une question extrêmement complexe.
Qu'on laisse au débat des historiens, que je poserai.
Au débat des historiens, pourquoi cette éclipse de Lucien Febvre ?
Pour une prochaine émission.
Débat. Voilà, ça mérite débat, puisque Lucien Febvre, même s'il ne peut pas être oublié, puisqu'il est présent dans tous ces textes, mais il n'y a pratiquement aucun établissement scolaire qui porte son nom, pas une rue qui porte son nom, pas un centre de recherche qui porte son nom. Donc, ça fait débat.
Alors, au lendemain de la guerre, donc il a participé à la mise en place du CNRS,
il est président du comité de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.
Il crée aussi la sixième section, ça c'est un
tout
petit
un
peu
chapitre.
Après.
Ça fait pas débat, mais il faudrait peut-être en parler longuement.
Avant d'arriver en 1949, alors, il laisse sa place au Collège de France.
À Fernand Braudel. À l'âge de la retraite,
à 70 ans. Retraite. Et puis en 1949, il est élu à l'Académie des sciences morales et politiques. Alors, est-ce qu'on dit un mot quand même de la création de la sixième section ?
Oui, la création de la sixième section, c'est tout un chapitre. Il est l'architecte de la sixième section, même si, on peut lire dans ses textes, il récuse cette notion de...
D'être le seul.
Théorie créatrice. Il n'est pas le seul, bien évidemment. Dans les faits, il est inséré dans un réseau de relations et c'est Charles Morazet qui porte le bébé, le cadeau d'Amérique, qui lui remet entre ses mains. Mais il en est totalement l'inventeur, dans le sens où il en est l'inspirateur. Toujours dans cette manière d'abattre les cloisons, et il dit lui-même que quand on voudra bâtir le palais, on fera venir un architecte qui dressera son plan et fera jeter d'abord par terre tous les pans de murs disparates dont on aura encombré son terrain. Commençons-nous par le commencement, par les plans d'architecte. Alors évidemment, ce n'était pas dans du dur, ces plans d'architecte, puisque la sixième section s'est créée sans feu ni lieu, sans local propre et avec des moyens extrêmement limités. Quelques subsides qui venaient de la Fondation Rockefeller, c'est aussi tout un chapitre. En tout cas, il a refait une affiche à ce moment-là, comme ce qu'il faisait à Strasbourg, mais là, il est complètement maître du jeu. Et la première affiche de la sixième section est un véritable manifeste. C'est un programme. Et c'est un programme dont l'articulation en six points n'est pas sans rappeler, évidemment, les annales,
des annales,
que ça devienne non plus un manuel. Et c'est un programme qui déshabille les cadres disciplinaires. Non, je ne vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, à ce moment-là, il attire dans cette jeune sixième section des enseignants de tous les horizons dans un brassage disciplinaire et institutionnel unique. Les uns sortent des facs de droit, des facs de lettres, du CNAM, tout en restant attachés à leur institution d'origine. Et comme la tradition de l'EPHE n'exigeait aucun diplôme pour le recrutement des maîtres, ni pour celui des élèves, il y a eu là des possibilités d'ancrage institutionnel de personnalités scientifiques non titulaires de l'agrégation. L'agrégation, d'ailleurs, un célèbre article de 1937 signé avec Marc Bloch contre l'agrégation et les écoles, un peu dans la veine de ce qu'il écrivait avant la Première Guerre mondiale. Donc, cette sixième section doit entièrement à Lucien Febvre sa naissance, son esprit et son dynamisme, le dynamisme de cet homme qui avait déjà plus de 70 ans et qu'il préside jusqu'à sa mort en 1956.
Il entre à l'Académie, il est élu en 1949 au fauteuil numéro 5. La section d'histoire et géographie a 8 fauteuils à l'Académie des sciences morales et politiques et Lucien Febvre occupe le fauteuil numéro 5, un fauteuil qui a été occupé avant lui par Guizot, qui a permis la recréation des sciences morales et politiques que Napoléon avait supprimées par crainte de ses esprits trop critiques. Mais c'est un clin d'œil de l'histoire. Le fauteuil a été occupé ensuite par Fustel de Coulanges, par Albert Sorel, par Paul Vidal de Lablache. On suppose que ça a dû lui faire plaisir. Ensuite par Émile Bourgeois. Alors là, je crois qu'il était très en distance avec lui.
Il le traite de dixième de Dieu, alors que Albert Sorel est un demi-dieu et Émile Bourgeois un dixième de Dieu. Il faisait partie de ceux qui l'avaient dégoûté de l'histoire, c'est l'histoire diplomatique. Et oui, c'est étrange cette succession, parce qu'il n'y a avant lui, à part Paul Vidal de Lablache, que des historiens de l'histoire diplomatique et des archivistes paléographes, Pierre Champion et Camille Bloch, dont il doit faire l'hommage, puisque c'est lui qui va rédiger la notice d'autorité. D'une manière un peu convenue, mais sympathique, en concluant. J'ai jeté un coup d'œil tout à l'heure sur le fait que c'était un homme heureux. Mais cette élection à l'Académie, elle peut paraître étonnante pour ce pourfendeur de la sclérose des institutions. Et on disait tout à l'heure qu'il avait un cursus honorum tout à fait classique. Et on a compris quand même que l'action et la personnalité de Lucien Febvre se disent bien au-delà de ce parcours lisse et sans faute. Car Lucien Febvre est peut-être sans doute le moins académique des universitaires de son temps. Mais c'est un homme qui n'a pas peur des apparentes contradictions, dans la mesure où elle n'est pas profonde, la contradiction. En tout cas, pour lui, il y a une unité de l'homme, même s'il y a plusieurs aspects, plusieurs visages, plusieurs organes, plusieurs manières d'être. Et ça ne me gêne absolument pas d'être dans un fauteuil d'académicien, dans la mesure où c'est un levier. C'est un levier qui lui permet d'avoir un bâton de pèlerin supplémentaire, une reconnaissance supplémentaire. Ce n'est pas le pouvoir qu'il aime, ce n'est pas les honneurs qu'il aime, c'est pouvoir agir. Et signer comme académicien un certain nombre d'actions, ça a du poids.
Brigitte Mason, est-ce qu'on sait quelque chose de son épée d'académicien dans les archives personnelles, dans le fond Lucien Febvre? Est-ce qu'on a quelque chose là-dessus?
Pour le moment, je n'ai trouvé aucune allusion à ça. Je poserai la question dans la famille. Le fils Henri Febvre m'a répondu qu'en 49, il n'était pas là et que manifestement, ce n'était pas une affaire d'État. Pas de trace jusqu'à présent.
Alors, vous nous avez amené pour conclure un très joli texte où il signe Lucien Febvre, membre de l'Institut. Donc, un texte extrait des Annales de l'Est en 1954. 2 ans avant sa mort, et qui n'a pas perdu une ride, et qui révèle tout son sens du combat jusqu'à la fin de sa vie. Alors, je vais le lire, et on va terminer là-dessus. Toute stagnation, tout affaiblissement des sciences humaines serait pour la France un désastre, et je dirais plus, une catastrophe pour le monde entier dont une large partie croit toujours en nous, et continue à faire confiance à nos capacités traditionnelles de diriger, de penser le travail intellectuel et l'effort des hommes. Ne décevons pas ces espérances, ne tardons pas à leur donner satisfaction. Nous ne pouvons, par un abandon criminel, délaisser ces activités et signer ce faisant notre déchéance intellectuelle. Pour le reste, travaillons de notre mieux, ayons confiance en l'avenir. Souvenons-nous du bel exemple que donna l'Université de Nancy à l'époque héroïque de sa création et simplement virilement accomplissons notre devoir au poste qui nous est assigné en répétant le beau mot de Pascal, c'est votre fait de jouer bien le personnage qui vous est donné, mais de le choisir c'est le fait d'un autre. Lucien Febvre, membre de l'Institut. Brigitte Mason, merci beaucoup pour toute cette sélection d'extraits qui nous montre un Lucien Febvre par Febvre lui-même.
Merci.
Vous venez d'entendre une interview de Brigitte Mason à propos du livre « Lucien Febvre, vivre l'histoire » publié en janvier 2009 dans la collection Bouquins chez Robert Laffont.